Voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, deux femmes vont vous parler droit dans les yeux. Deux femmes engagées sur des terrains mouvementés qui racontent leur quotidien, les coulisses de leur action. Nous aurons Mariam Pizradeh, une jeune journaliste franco-iranienne en poste depuis 2 ans à Téhéran pour France 24. Et elle suit l'évolution de ce pays. Elle va nous raconter de l'intérieur comment l'Iran est en train de bouger. Son livre s'appelle « Quand l'Iran s'éveille » aux éditions La Martinière. Littérature. Le micro donc sera ouvert pour l'Iran. Et tout de suite, pour commencer, nous allons plonger dans l'enfer des missions de l'ONU avec Célia de la Varenne. Bonjour Célia.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste et vous publiez « Les étoiles avaient déserté le ciel » aux éditions Ballon. Et donc vous racontez hein, pour la première fois, c'est ce qui est écrit sur la quatrième de coup, alors c'est très alléchant, on a donc pour la première fois les coulisses des missions de la paix, ses dérives, ses non-sens, ses absurdités, mais aussi ses succès. Donc aujourd'hui, Célia, vous vivez à New York, vous collaborez pour l'Obs et Mediapart. Alors ce titre, j'ai envie de commencer avec ça, « Les étoiles avaient déserté le ciel ». Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez découvert un monde triste, sans lumière, sans espoir. C'est un peu l'impression que ça fait.
Non, pas vraiment. Je crois, je ne sais même pas d'ailleurs, parce que c'est mon éditeur qui a trouvé le titre. Moi, je ne parvenais pas à en trouver un. Et il m'a dit, mais c'est dans votre livre. C'est pratiquement à la dernière page de votre livre. Et en fait, j'allais partir, je ne sais plus, je crois que c'est au Libéria. Je partais du Libéria et je savais qu'il y avait au Ghana des jeunes filles, des gamines qui étaient parquées dans un hôtel et qui, les trafiquants de ces gamines, attendaient que je parte pour les amener au Libéria. Et je suis rentrée chez moi et j'ai regardé le ciel qui était d'une noirceur absolument infernale. Et c'est vrai que j'ai pensé, et je l'ai écrit, les étoiles avaient déserté le ciel. C'est l'histoire du titre.
Alors vous allez nous raconter effectivement les missions que vous avez menées entre Afrique du Sud, Timor oriental, Bosnie, Libéria. On attend vos questions hein, pour nos deux invités aujourd'hui au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook pour partager vos réactions. Alors, il y a beaucoup de messages hein, sur Facebook de nos auditeurs, donc assez critiques, il faut bien le dire, sur les missions de l'ONU. Célia de la Varenne, ça ne va pas vous étonner. On a déjà Vitus, par exemple, de Cotonou, qui nous dit, depuis la création de l'ONU, pouvons-nous vraiment dire que l'Afrique bénéficie de cette organisation? Il y a Kimberley de Port-au-Prince qui dit, en Haïti, quand on parle de l'ONU, eh bien, on parle de corruption interne. Mariam de Gaoundéré au Cameroun hein, qui nous dit « Moi, je pense que l'ONU a échoué dans sa principale mission, celle de garantir la paix et la sécurité dans le monde. Et à mon avis, on devrait dissoudre carrément. C'est ce que dit cette organisation. » Alors, vous allez pouvoir réagir, Célia de la Varenne. On va terminer avec Samban de Lomé qui nous dit « Les missions de l'ONU sont plutôt destructrices qu'autre chose. Elles n'améliorent pas du tout la situation. » Et alors, peut-être une solution Bandoumaï de N'Djamena nous dit comme l'ONU n'a pas réussi sa mission, il pense que ça vient de ce droit de veto hein, qui n'est pas banni. Donc toujours, il y a ces 5 pays qui ont ce droit de veto et que donc il faut absolument que tous les pays membres revoient le statut de cette organisation. Il y a un besoin de changement total, radical. Voilà ce qu'il nous dit. Alors on verra, puisqu'il y a un nouveau hein, chef de l'ONU maintenant, c'est Antonio Guterres. Donc est-ce qu'il sera capable de réformer et d'innover? Vous pouvez continuer de réagir pendant l'émission en direct au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Alors que se passe-t-il sur le terrain quand dans une mission de l'ONU, vraiment, on va voir dans ses coulisses quand la mission intervient. Vous êtes, Célia de la Varenne, très bien placée pour en parler. Donc vous sortez ce livre, hein, « Les étoiles avaient déserté le ciel » chez Ballon. Alors vous avez décidé de l'ouvrir, j'ai envie de dire. Vous êtes une femme libre, hein, journaliste. Vous avez beaucoup travaillé depuis le Conseil de l'ONU hein, pour raconter un peu tout ce qui se passait. Mais un jour, vous avez franchi la barrière, je dirais. Et Et vous êtes engagée dans des actions de l'ONU. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé de métier à un moment ?
Je ne me suis pas engagée vraiment. Il se trouve que le hasard fait parfois bien les choses. Et après avoir passé un an et demi à l'ONU, où je couvrais l'ONU pour Jeune Afrique, j'ai été contactée par quelqu'un avec qui j'étais devenue amie, qui était un des directeurs des ressources humaines. Et je reçois un appel dans mon bureau et il me dit « t'as pas envie d'aller au Cambodge parce qu'on n'a pas assez de francophones ». Bon, j'ai dit oui, parce que si je dis non, je vais réfléchir, c'est terminé. Mais si je dis oui, je peux dire non. Donc j'ai dit oui, et c'est comme ça que j'ai commencé.
Et alors là, première surprise dans votre premier poste, donc au Cambodge, racontez-nous, vous pensez être attendu, et en fait...
Non, mais ça, je l'ai constaté sur toutes les missions que j'ai faites. On vous demande de partir en 48 heures, vous avez tout juste le temps de boucler vos valises et vous arrivez... Pas de bureau, personne ne vous attend et tout le monde s'en fiche.
Vous n'avez même pas de poste, hein. On ne sait pas ce que vous devez faire.
Non, il a fallu attendre, je ne sais pas combien de temps, peut-être un mois, deux mois. Et puis peut-être quelqu'un a dû se dire, oh, les journalistes, on va la mettre à l'information. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai travaillé à l'information, parce que je n'avais pas envie. Je voulais faire des choses différentes. Et j'ai fait des choses différentes. Mais le Cambodge a été un choc, pas vraiment... à cause du pays qui est un pays fabuleux et des gens qui ne connaissaient absolument pas l'extérieur parce que le pays était fermé au monde extérieur, mais c'était parce que, je le dis dans mon livre, je découvrais le Club Med. Des gens qui étaient venus, pas vraiment pour aider les gens du pays, mais pour s'en mettre plein les poches. On avait un salaire, on avait 145 dollars de per diem par jour. Des gens qui, manifestement, n'en avaient rien à faire des Cambodgiens.
Mais c'est ce que vous dites, ils viennent pour voyager gratis et profiter des avantages et se promener dans les grosses voitures de l'ONU.
C'était hallucinant, je ne comprenais pas. J'avais cette espèce de naïveté qui consistait à croire qu'on allait faire la différence. Et en fait, on ne la faisait pas la différence. On se moquait complètement des autres. En plus, à l'époque, le patron de la mission était... un crétin de première qui s'appelle Yashushi Akashi, ou un nom comme ça, c'est vraiment un type qui ne faisait rien, qui avait peur de tout, qui au moment des élections s'était barricadé derrière des sacs de sable, et ça nous faisait hurler de rire.
Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez envie de raconter tout ça ?
Rien, en fait. C'est parce qu'un jour, j'ai déjeuné avec quelqu'un qui, je lui racontais des choses qui s'étaient passées sur l'émission, et il m'a dit, écoute, tu devrais vraiment écrire un carnet de voyage. Et je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était aussi une façon de payer mes respects à des gens que j'ai croisés, des gens de tous les jours, qui étaient des gens extraordinaires et qui se démarquaient justement par rapport à certaines personnes des missions. Et ça m'a beaucoup plu de faire ça.
Alors c'est sûr, chaque pays est différent. Vous étiez donc en Afrique du Sud et au Timor oriental aussi, là, oui. En observateur pour les élections. En Bosnie et au Libéria, vous avez été responsable d'unités de lutte contre la traite des personnes aux fins sexuelles. Et là, vous avez vraiment vu des choses assez horribles. Et par exemple, en gros, le personnel de l'ONU donc, fréquente les clubs, fréquente les prostituées, font des choses assez horribles. Il n'y a absolument aucune mesure... à leur rencontre.
Non, parce que d'abord, ils ont cette fameuse immunité diplomatique et cette immunité ne peut être levée que par le secrétaire général de l'ONU qui ne le fait jamais, pratiquement. Et je pense que psychologiquement, quand on se sent protégé, en tout cas ces ordures qui se sentent protégées et qui se réfugient derrière cette fameuse immunité diplomatique, pourquoi ils s'arrêteraient ? Pourquoi ? Écoutez, dans mon livre, je raconte l'histoire de ce type yéménite qui a violé une gamine de 15 ans et qui, en fait, pour punition, on l'a exfiltrée de la mission et on l'a envoyée au Liban. Les Libanais, ils ne méritent pas d'avoir un type comme ça. Il n'a jamais été puni. Et ça n'a pas changé, c'est toujours comme ça. On l'a vu en République centrafricaine, c'est très difficile. Ça commence à bouger, mais c'est vraiment... Il y a une culture de ce qu'on appelle « boys will be boys ». Les hommes seront toujours des hommes. Et un jour, il y avait un ancien patron des opérations de maintien de la paix que j'avais été voir et je lui avais dit « Voilà, si on crée des équipes telles que celles que j'ai créées en Bosnie sur toutes les missions, je peux vous assurer que ça changerait la physionomie de la mission. » Il m'a regardé, il m'a dit, bon, si je comprends bien, vous voulez empêcher les casques bleus d'exercer leurs droits de l'homme. Textuellement.
Parce que parlons des casques bleus, justement, vous en faites souvent référence, hein, que ce soit en Bosnie ou ailleurs, vous les avez vus agir, hein, et ouais. Se comporter vraiment comme des sauvages.
Comme des porcs, il faut le dire, oui. Mais oui, mais encore une fois, pourquoi ils se... D'abord parce qu'il y a, si vous avez comme au Liberia, ou le, je ne sais pas comment on dit, le force commander, enfin celui qui dirige les armées, il était nigérian et il vivait avec deux petites libériennes. J'avais été le voir et je lui avais dit, écoutez, c'est pas sérieux ça. Comment voulez-vous faire entendre raison à vos hommes si vous-même ne donnez pas le bon exemple ? Il m'a regardé, il a dit, ah, vous les Blancs, franchement, chez nous, c'est à 8 ans. Bon, j'ai eu envie de lui en décrocher une, mais je ne l'ai pas fait, bien sûr. Mais je lui ai dit, 18 ans et encore, faut-il qu'elle dise oui ? Mais bon, c'est...
Non, mais ça fait du bien d'entendre cette parole, Célia de la Varenne, parce que c'est vrai que les messages Facebook aussi nous disent hein, qu'ils parlent beaucoup de corruption, hein, qu'ils oui. les voient en Haïti, par exemple. Et donc, ça fait du bien de l'entendre exprimer, de le lire.
Oui. Mais enfin, ça fait du bien, mais ça ne change pas les choses.
Alors, c'est ça le problème. Ça ne change pas. Les mesures dans les zones de conflit, sur les terrains de guerre, hein, vous le dites, les résolutions sont votées par les diplomates. Et par contre, c'est complètement inapplicable. Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Non, ça m'a beaucoup frappée. Vous avez des gens qui sont derrière leur petit bureau et qui cogitent pour pondre une belle résolution qui va donner un mandat à une mission. Et quand on arrive sur le terrain... on se rend compte que ces gens-là n'ont jamais mis les pieds sur le terrain. Quand ils y vont en groupe. Le Conseil de sécurité va faire un voyage. Mais ils ne voient pas ce qui se passe vraiment. On les emmène dans des endroits sympathiques. Donc, on se rend compte très vite qu'elles sont inapplicables. Ça ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour changer.
Alors, il y a le fonctionnement, il y a l'organisation, mais en plus, il y a aussi la mentalité des gens, vous le dites. Ils sont arrogants, ils considèrent les autres comme gens inférieurs, et en gros, ça provoque le rejet des populations.
Alors, je voudrais dire quelque chose qui ne va pas plaire à nos amis africains, mais je m'en fiche, parce que je ne suis pas du tout politiquement correcte. Je voudrais dire que j'ai souvent vu des casques bleus, qu'ils soient civils d'ailleurs, ou militaires, qui arrivent sur le terrain et qui sont en provenance de pays qui ont été colonisés. Et curieusement, et ça m'a toujours frappé, curieusement, ils n'ont de cesse de coloniser ces populations qui sont vraiment, qui sortent d'un conflit armé, qui ont vraiment souffert. Alors moi, je voudrais savoir à quel moment on cesse d'être un être humain pour devenir un bourreau. C'est vraiment, ça m'a interpellée cette question. Pourquoi ?
Et cette question, elle est en filigrane hein, dans toutes vos missions.
Oui, mais c'est vrai, le racisme que j'ai constaté en Afrique du Sud, il était en provenance d'Africains qui étaient évidemment envoyés par l'ONU et qui étaient team leaders, enfin, je ne sais pas comment on dit, qui dirigeaient les équipes et qui, moi je me souviens du mien, qui était un Sénégalais qui ne voulait pas assister à des réunions parce qu'il disait « je ne veux pas me mélanger à ces gens-là ». Ces gens-là, enfin, alors ça va mal, c'est pas possible, le racisme. Vous savez, l'ONU est composée de gens, alors il y a des clans, il y a le clan arabe, il y a le clan africain, il y a le clan des bons blancs, enfin bon. Alors on se supporte, mais on ne se mélange pas. Ça, c'est comme ça. Hein,
Est-ce que vous avez une parole assez libre, hein, c'est Célia de la Varenne, on l'entend. Vous décidez quand même de publier effectivement tout ce que vous avez vécu, toutes les coulisses hein, de l'émission de l'ONU. Est-ce que vous avez peur, par exemple, de ce que peut déclencher votre témoignage ?
Non. Vous savez, j'ai été confrontée à la mafia en Bosnie, au Libéria. Alors franchement, avoir peur, non.
Est-ce que vous allez envoyer votre livre à Antonio Guterres, qui est le nouveau chef hein, de l'ONU
Je n'avais pas pensé, mais vous m'en donnez l'idée, parce que c'est quelqu'un que je respecte infiniment pour justement sa liberté de parole. Et oui, je vais le faire, bien sûr.
Et il sera peut-être à même d'innover et de réformer, hein, c'est ce qu'attendent aussi nos auditeurs, ce qu'on voit à travers nos messages.
Il va essayer. Mais ce que les auditeurs devraient savoir, c'est qu'il y a 193 pays membres hein, de l'ONU. Et il y a les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est eux qui donnent le là, et c'est surtout les États-Unis. Et maintenant la Russie, depuis peu, enfin depuis 4 ans. Donc, pour réformer, il faudrait qu'il ait le soutien de ces membres-là et pas sûr qu'il va l'avoir.
Alors, on a envie de terminer aussi avec un moment magique quand même, parce que vous en avez aussi beaucoup vécu à travers ces années, hein, à travers l'émission. J'ai envie de parler des élections en Afrique du Sud, parce que j'ai été très touchée par ce qu'il y a, il y a eu la victoire de Nelson Mandela. Mais vous avez rencontré là une femme assez incroyable.
Ah oui. Victoire de Nelson Mandela. Là, j'avais toujours voulu faire partie de cette histoire en marche, parce que je militais contre l'apartheid. Et évidemment, nous étions tous pour Mandela. Et j'étais responsable de 2 bureaux de vote. Et on s'est élevé très tôt pour s'assurer que tout allait bien. Et ma grande surprise, ça a été de voir des kilomètres de fils de gens qui étaient venus avec des pierres pour tabouret, avec des victuailles. Enfin bon, c'était la fête parce que c'est la première fois qu'ils allaient voter et qu'ils étaient traités en tant qu'êtres humains. Et à un moment donné, il était 6 heures du matin. Et je vois arriver une brouette, et dans la brouette est poussée par un jeune homme, et dans la brouette, il y a une femme très vieille. Et le jeune homme vient vers moi et me dit, écoutez, c'est ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère, je ne sais pas, elle a 104 ans, et est-ce que vous ne pouvez pas ouvrir le bureau de vote? Il faut qu'elle vote, parce qu'elle a peur de mourir sans avoir voté. Alors évidemment, on a demandé l'autorisation, au moins aux premières personnes qui étaient dans la file, parce qu'on ne pouvait pas faire les kilomètres. Tout le monde a dit oui. Et je l'ai accompagnée à l'intérieur, parce que en tant que membre de l'ONU, j'avais le droit de... Elle ne savait pas lire, bien sûr. Je lui ai fait faire toutes les démarches. Dans le... Comment on appelle ça? L'isoloir. Elle a évidemment sauvagement poussé son doigt sur la photo de Mandela. Et en sortant, elle a dit, j'ai voté pour Madiba. La posture de cette femme avait changé. Elle s'est ridée, parce qu'elle était très ridée. On avait l'impression qu'elle s'était effacée. Elle s'est dirigée vers sa brouette, c'est le cas de le dire, d'une démarche beaucoup plus assurée. Et elle m'a regardée et elle m'a dit, excusez-moi, ça me touche encore. Elle a dit, maintenant je peux mourir.
C'était la première fois qu'elle votait. Oui. Elle avait tenu le coup jusqu'à ce moment très, très fort.
C'est quelque chose que j'ai jamais oublié. La façon dont cette femme était devenue un être humain, juste en allant voter. Depuis, je vote. Parce que je me dis, il y a des gens dans le monde qui meurent.
On le sent bien, vous avez vécu des choses vraiment très intenses à travers toutes ces émissions. C'était joli et par moments très intenses dans tous les sens, hein, avec des hauts et des bas. Oui. Comme vous le disiez, vous étiez aussi confronté à la mafia, à la traite des personnes en Bosnie. Il fallait être fort et courageux.
C'était amusant en tant que journaliste de diriger des équipes de 250 flics. C'est quand même une chose qui ne nous arrive pas souvent. Parce que la presse et les flics, c'est pas... j'ai découvert des gens extraordinaires et qui ont mené le combat que je menais et qui m'ont épaulé. Sans eux, j'aurais pas pu d'une façon fabuleuse.
En tout cas, l'ONU continue de fasciner, hein, même si effectivement on en déplore les dérives que vous pointez bien dans votre livre. Et on vous remercie en tout cas d'avoir levé aussi cette omerta, d'avoir plongé dans l'enfer des missions de l'ONU et d'avoir ce témoignage très poignant.
Mais je crois que c'est la première fois que ça se fait parce que, d'abord, je ne travaille pas pour l'ONU, c'est fini. Ils ont mis mon nom sur une liste noire, donc bon. Et puis, je suis journaliste, donc je trouvais que c'était bien de le faire. Les autres ne peuvent pas le faire, sinon ils seront virés.
Donc voilà, vous avez eu cette parole libre. Merci beaucoup, oui. Célia de La Varenne. Donc vous publiez « Les étoiles avaient déserté le ciel ». C'est aux éditions Ballon. Et après le flash, eh bien, nous allons rencontrer une autre femme qui est journaliste là depuis 2 ans à Téhéran pour voir comment la société est en train de bouger à vive allure. Vos questions, vos commentaires à Mariam Pirzadeh qui publie « Quand l'Iran s'éveille chez la Martinière ». On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Et on se retrouve dans 3 minutes.
Autour de la question. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à vous les voisins, les voisines qui nous rejoignez. On part en Iran maintenant. Alors on parle beaucoup de ce pays depuis l'été dernier avec la levée des sanctions économiques de l'Occident suite aux accords sur le nucléaire. Alors vu d'ici, le pays semble s'ouvrir. D'ailleurs, ça compte, hein. Il y a plus d'investissements étrangers, maintenant plus de tourisme aussi, alors que le pays faisait carrément peur, n'est peut-être pas trop fréquentable. Alors qu'est-ce qui se passe de si important dans la société iranienne depuis 2 ans? Comment vit la jeunesse après les espoirs d'ouverture? Et les femmes aussi, on les imagine sous un tchador, mais quels sont leurs combats aujourd'hui? On attend vos questions, vos réactions sur ce pays en plein bouleversement au 33 1 84 22 71 71. Et pour en parler, nous sommes avec Mariam Pirzadeh. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes une jeune journaliste franco-iranienne et vous êtes en poste maintenant, donc vous vivez à Téhéran depuis 2 ans et vous travaillez pour France 24. Et alors on se disait justement, vous travaillez que pour France 24 puisqu'il y a une drôle de loi entre parenthèses en Iran.
Alors effectivement oui, on ne peut pas travailler pour plusieurs médias, donc on est accrédité pour un média et je ne travaille que pour France 24.
Sinon, vous seriez la reine du pétrole, parce qu'on a besoin de gens comme vous, effectivement, pour comprendre tout ce qui est en train de se passer.
En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvée, effectivement, lors d'événements très importants, et j'étais la seule journaliste française avec aussi l'AFP, hein, l'AFP qui est là depuis très longtemps, qui n'a jamais quitté l'Iran. Donc, on était 2 journalistes français pendant très longtemps. Et par exemple, je me rappelle très bien de ce début du mois d'avril, lorsqu'il y a eu ce préaccord, et que ça a surpris tout le monde, tous les Iraniens sont descendus dans la rue pour célébrer juste le préaccord. Donc, c'était même pas l'accord définitif. Et là, je me suis rendu compte que j'étais toute seule et que les médias occidentaux, les médias français ont été complètement aussi surpris de voir cette vague d'enthousiasme et beaucoup m'ont téléphoné pour que je puisse intervenir. Donc, effectivement, il y a aussi des fois une forme de frustration parce que je ne peux pas intervenir partout.
En tout cas, vous suivez donc l'évolution de ce pays depuis 2 ans. Vous le racontez de l'intérieur hein, dans ce livre, « Quand l'Iran s'éveille ». C'est aux éditions La Martinière Littérature. Je vais commencer par le début. Vous citez un poète pour débuter, le poète Hafez du XIVe siècle. Alors, vous écrivez « N'essaye pas de retenir le vent, même s'il souffle au gré de ton désir ». Alors, pourquoi ouvrir là-dessus votre livre?
En fait, cette Hafez, les poètes persans sont très importants dans la vie des Iraniens. Quand vous montez dans un taxi à Téhéran, vous pouvez demander à n'importe quel chauffeur, qu'il ait fait des études ou non, qu'il ait son bac ou non, qu'il ait été à l'école ou non, il vous récitera des vers de poètes comme Hafez, comme Saadi. Et effectivement, c'est assez incroyable de voir à quel point ce peuple est extrêmement éduqué, a une très forte culture, un très fort attachement pour cette culture iranienne. Et je trouvais que ça allait bien avec le livre. Cette phrase, elle m'a inspirée surtout pour les jeunes. Je voulais l'inscrire au début du chapitre sur les jeunes. Et puis je me suis dit, en fait, non, il va pour tous les chapitres, les 10 chapitres de ce livre. Donc, je trouve que c'est ça l'Iran. C'est que, voilà, il faut se laisser aller, voir les évolutions parce que les évolutions arrivent. Il faut être attentif car des fois, il faut se concentrer pour les voir et ce n'est pas visible à l'œil nu. Par exemple, si vous allez en Iran une semaine, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé. Moi, c'est vrai que la première fois que je suis allée en Iran, c'était il y a 20 ans, et en 1995. Et là, en 2016, c'est pratiquement plus du tout le même pays.
C'est 2 pays différents. Vous expliquez à quel point aussi il est compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui fait que ça le rend si complexe hein?
Parce qu'il y a une culture, il y a une extrême politesse. Alors, les Iraniens qui m'écoutent vont sûrement sourire. Il y a le tarouf. Le tarouf, c'est une sorte d'extrême politesse poussée à l'extrême. Je ne peux pas employer plus de superlatifs parce que, voilà... Il faut toujours faire attention à son interlocuteur, il faut toujours faire attention de ne pas le blesser. Et donc, effectivement, c'est complètement à l'inverse de notre culture, où on va être assez franc, on ne va pas des fois prendre de pincettes. Et en Iran, non, au contraire. Il faut faire très attention à ce qu'on dit.
Il ne faut pas choquer, il ne faut pas blesser.
Mais pas forcément, même un Iranien, hein, même un chauffeur de taxi, lorsque vous achetez votre pain. Voilà, il y a des mots dans la langue persane qui n'existent, qui sont intraduisibles en français. Et donc, des mots de politesse, il y a des formules de politesse pour chaque action de la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on sort de la douche, il y a une formule de politesse. Lorsqu'on rentre du travail, il y a une formule de politesse. Si jamais vous me préparez un dîner, je vais vous dire que vos mains soient reposées de m'avoir préparé à dîner. Vous allez me répondre, régalez-vous de ce que je vous ai préparé. Vous voyez, donc, c'est vraiment ça, cette politesse poussée à l'extrême.
Alors, en tout cas, il y a un grand décalage entre l'idée qu'on se fait du pays, de l'Iran. Pour beaucoup, on n'est jamais allé. Hein. Et la réalité vécue. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre. Oui, c'est pour ça que c'est si passionnant de le vivre de l'intérieur. Hein.
C'est exactement ça, en fait. Ce que j'explique aussi dans le prologue, c'est que je me suis rendu compte de ça aussi dans les yeux de mes amis. Lorsque je rentrais en France, ou même les amis qui sont venus me rendre visite en Iran ou en parlant avec des touristes. Et je peux vous dire qu'unanimement, tous les touristes, je me rappelle d'un groupe de Français de Toulouse que j'avais rencontré dans le musée du tapis, au musée du tapis à Téhéran, et tous m'ont dit « mais on ne s'attendait pas à ça ». On ne s'attendait pas à ce pays, on ne s'attendait pas à autant de modernité, à autant de gentillesse. Et c'est vrai que je voulais raconter aussi, il y a beaucoup de clichés qui circulent sur l'Iran, notamment sur les femmes. On s'imagine que les femmes ne conduisent pas, que les femmes ne travaillent pas, qu'elles sont effectivement sous un tchador et qu'elles sont passives en fait. Et au contraire, elles sont complètement maîtresses de leur destin. Et j'ai voulu vraiment montrer ma vie de tous les jours, alors sans parler de moi, mais montrer effectivement comment on pouvait vivre à Téhéran et être heureux à Téhéran.
Oui, parce que c'est vrai que vu d'ici, on a cette idée d'une société encore très conservatrice, très, très religieuse. Enfin, c'est effectivement les images qui nous sont parvenues. En fait, ce qu'on comprend, c'est que tout est interdit en Iran, mais tout est possible.
C'est exactement ça. En fait, les Iraniens, depuis 37 ans, même depuis avant, hein, ont réussi à contourner, à détourner certaines lois pour pouvoir vivre, en fait. Et c'est vrai que je pense que l'exemple le plus fort, c'est ces VPN, c'est tous ces sites qui sont interdits. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux sont interdits, Facebook, Twitter... Alors Instagram ne l'est pas, mais il y a plein de sites, le site France 24 par exemple, on ne peut pas y accéder sans VPN, donc ces fameux proxys. Et vous allez de manière très simple dans n'importe quel magasin de téléphonie pour la somme de 3 euros par trimestre et vous achetez effectivement un code et là vous surfez sur tous les sites du monde entier. Et ça, c'est assez incroyable. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est difficile à comprendre, je pense.
Par exemple, même sur les relations amoureuses, donc il est interdit effectivement d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais on peut se marier, j'ai découvert ça, on peut se marier, on fait un papier, on se marie, on va à l'hôtel et on divorce le lendemain. Comme ça, on n'est pas pris en faute.
Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout est réglé dans un cadre législatif. Alors maintenant, c'est ciré, c'est mariage temporaire, il y en a de moins en moins de toute façon. Et puis, c'est vrai qu'ils sont maintenant assez mal vus. Mais on peut se marier pour une heure, on peut se marier pour 3 mois, c'est comme un CDD en fait, on teste et puis automatiquement... il s'arrête, mais on se marie devant un religieux, donc il a une vraie valeur juridique, une vraie valeur législative en fait.
En fait, tout ce qui se déroule aussi, c'est dans les espaces privés. C'est pour ça qu'on a du mal à le percevoir. Vu du dehors, on voit que les images officielles. Mais effectivement, l'égalité, elle se joue presque entre les hommes et les femmes dans l'espace privé. Et là, on tombe le voile et c'est un autre Iran qui se
dévoile. Exactement. Je me rappelle très bien. Je suis arrivée en Iran début octobre, le 1er octobre 2014. Et à ce moment-là, une Iranienne m'avait dit « Tu verras, il y a deux Irans. Il y a l'Iran de l'intérieur et l'Iran de l'extérieur. » Et c'est vrai que c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a la sphère publique, où il y a le voile, il y a le manteau, et puis il y a la sphère privée, où on peut danser, se réunir. Je veux dire, c'est exactement ça. Après, il faut aussi faire attention. Ça reste une république islamique.
Alors que sont devenus, par exemple, les gardiens de la Révolution. Alors, est-ce qu'ils existent toujours ?
Ah oui, ils sont. Ces gardiens font partie de la colonne vertébrale de l'Iran, en fait. Ils dirigent certains pans de l'économie. C'est vraiment l'ADN de la République islamique, les gardiens de la Révolution. Et notamment, ils sont là, ils sont. En fait, c'est vraiment ça, les gardiens de la Révolution. C'est-à-dire ils ont la charge de garder et de faire appliquer les principes de la révolution islamique depuis 1979. Sachant qu'il y a encore aussi des tribunaux révolutionnaires en Iran. On est toujours, il ne faut pas oublier que cette révolution islamique est là. Il faut garder les principes de cette révolution islamique.
Donc le pays, en fait, si je vous entends bien, c'est qu'il est tiraillé plus que jamais entre ce conservatisme religieux et l'attirance vers l'Occident et l'ouverture maintenant qui est bien là.
En fait, voilà, l'Iran, c'est aussi sa force et sa jeunesse. 60% des Iraniens ont moins de 30 ans. Donc, ils sont nés après la Révolution. Ils ont en général connu donc, ces 8 années de guerre avec l'Irak. Ils ont connu ces années de sanctions, ces années de pénurie, ces années où ça a été vraiment compliqué. Et ça, c'est très important parce que cette jeunesse, maintenant, elle est très connectée. L'Iran, il faut le savoir, c'est l'un des pays les plus connectés du Moyen-Orient. Vous regardez dans la rue, si vous allez en Iran, vous avez la chance d'aller en Iran, regardez la main d'un Iranien, vous verrez, ils ont tous un smartphone en main, ils surfent tous sur Internet, donc ils savent ce qu'il se passe à l'extérieur, et donc ils veulent aussi vivre comme cela. Ils ne sont plus fermés comme avant, donc ils sont extrêmement ouverts sur le monde.
Alors que deviennent justement les espoirs de cette jeunesse que vous vous dites, ils sont effectivement très nombreux. On va continuer après une rappeuse iranienne, Justina, vous la connaissez ? Non ? Eh ben vous allez la découvrir. Justina, et elle va chanter Radam bi Radam. صف بستم مثل شنیدن صدا مده از دست با سینگ فرصت برام که کلماتو مثل تزو ذکرش کنی مغز پوسیده تو با صدام گرفت رش کنی میدم به تفت زنانم و به یه مرد میشه بینه این نروی دو پاک و مرد بینشون وقت صدام میشنه و روی گوشو کج میشه آخر روح صدام نیست با به میلشون ورود من با یه حرف و ضرب و درد جدید اگه درک و فهم و مغز داریم بدین گوشاتون و هوشاتون رو میخواب بدونم خوشن اونا میگفتن نمیتونه گزم بخونه مثل اونا مثل اونا که رو فاز بیتکس می نویس و بر خونه رو بیت گنجک می نویس ما تو فاز خودم اما کسی کار ندارم در نیستم از آب گلال و ماهی درارم نه مثل تو واسه حال خوب تن من میده سکشم نه واسه کار زود تن در میده و سردر میشه از هم سال تو و سر سال نو یه حالی عوض که بشه احوال تو من که بخوام این کار رو واسه تو سخت در کنه این ذات منه به خودم و سردر گمه پس نه یه جلو چون تو رپ فاس منم که سرخط شدم قدم به قدم می راه باز با منه تو کلم یه حرب با نباق تو کارم ای منم که فقط یه آس شانس با منه نه با من تو نه جنگی خداست که با منه قدم به قدم می راه باز با منه تو کلم یه حرب با نباق تو کارم ای منم که فقط یه آس شانس با منه نه با من تو نه جنگی خداست که با منه این دشت وحشی من مثل شیر می قرم تو هم گوشاتو بگیر واسه من تا آخرش اگه میتونی جانم رو بگی اینو میدونم که واسه تو یه درد سر شدم گوشا با صدای من پرده کر شدم اینه طرز بر خودم با نرویی مثل تو اگه حرف حق زدم و تنهایی مثل جو میخوام آکبن نمونه اون مغز کوچی که بگو درد تو چیه مثل درد کمره همه رفتارو نری مثل عصر حجر مثل آدم بمون اینه حرف طرفت تا هست اصل من با حرف حق من ساده است از به جای تا من بازم یه زنی با ترس با سنگ نامرد با دردی ناحق زجه زد Et voilà, c'était Justina, donc Radam bi Radam. Alors, c'est une rappeuse et Romain me dit qu'elle est cachée toujours dans ses clips, donc pour pas qu'on la reconnaisse. Donc, c'est interdit ce qu'elle
c'est
fait.
C'est interdit pour les femmes de chanter, effectivement, en Iran. Donc, à mon avis, oui, elle ne peut pas. Elle doit se cacher. C'est interdit même d'entendre des musiques. Des chansons chantées par les femmes. Alors c'est ça aussi qui est assez surprenant quand on parlait de cet Iran qui est compliqué. Quand vous allez dans certains restaurants à Téhéran ou dans des cafés, vous entendez des chansons avec des femmes, mais c'est interdit en fait. Et là, il y a deux entrepreneurs français qui ont ouvert la première boulangerie française, effectivement, pour organiser leur magasin, on leur a stipulé qu'il ne fallait pas passer de musique avec des paroles. Donc voilà, c'est quand même.
Donc, vous ne pouvez même pas écouter une chanteuse française.
Comment ?
Même une chanteuse française, par exemple, ne pouvait pas être.
On ne peut pas entendre une femme qui chante. Alors, effectivement, ce qui est assez. C'est pour ça aussi que c'est paradoxal. Vous pouvez entendre une femme qui chante sur la scène d'un théâtre, parce qu'elle n'est pas elle-même. Elle n'est pas une chanteuse, elle sera comédienne. Et donc, dans son rôle de comédienne, elle va chanter.
Mais pas pour elle-même, pas en tant que.
Pas en tant que femme chanteuse. Elle est comédienne. Donc, la danse est interdite et le chant des femmes est interdit.
Et j'ai découvert aussi dans votre livre, donc quand l'Iran s'éveille, Mariam Pirzadeh aux éditions de La Martinière, au théâtre aussi, dans les troupes, ils n'ont pas le droit de se toucher.
Non. Non, ils n'ont pas le droit de se toucher. J'ai vu il y a 2 semaines une pièce au théâtre de la ville sur une pièce d'un écrivain anglo-saxon qui s'appelait Constellation. Et c'était assez surprenant. Je l'ai trouvé assez subversif, cette pièce, car ça parle de la naissance d'un couple jusqu'à la mort d'un membre de ce couple. Et effectivement, ils se rencontrent, ils sont un petit peu éméchés lors d'un barbecue. Donc, il faut jouer ça sur une scène à Téhéran, sachant que l'alcool est interdit. Donc, effectivement, c'est assez intéressant. Donc, on les voit, ils miment l'ébriété. Donc, voilà. Et donc, ils ne peuvent pas se toucher. Donc, il y a des mises en scène, c'est-à-dire que la femme va s'allonger par terre ou l'homme va s'allonger par terre, ou alors on voit une main, mais qui ne touche pas. Et c'est ça, en fait, la nuance. Mais les Iraniens comprennent ces nuances. Effectivement, nous, en tant qu'Occidentaux, si on voit ces pièces-là, on ne comprendrait pas. Mais les Iraniens répondent et savent exactement ce qui est en train de se passer sur scène.
C'est vraiment le pays des mille et un paradoxes, hein, comme vous l'écrivez. Et, par exemple, pour l'homosexualité aussi, l'homosexualité est interdite, mais paradoxalement, on peut changer de sexe plutôt facilement.
Oui, il y a beaucoup d'opérations de sexe. Alors, ça reste compliqué parce qu'il faut que les familles acceptent. Il faut se trouver une place dans la société en tant que transgenre. Mais effectivement, c'est autorisé en République islamique de changer de sexe. C'est même l'un des pays où il y a le plus d'opérations de ce genre après la Thaïlande. Donc, c'est assez surprenant.
Et vous l'attribuez à quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est plus acceptable que d'être homosexuel?
Alors en fait, c'est ça, c'est comme le mariage temporaire. C'est-à-dire chaque chose sensible, entre guillemets, doit avoir une loi. Un homosexuel, selon la loi, sera peut-être moins accepté que quelqu'un qui a changé de sexe. Effectivement, c'est pour ça que c'est compliqué à comprendre l'Iran. C'est parce que finalement, il y a une sorte de permission sur des opérations. Même nous, en France, où on a encore du mal, il y a encore des manifestations contre ça, alors qu'en Iran, c'est accepté. Alors que c'est une république islamique et donc, normalement, on devrait se dire que c'est assez incroyable qu'il y ait autant d'opérations de sexe. Et effectivement,
sur la place des femmes aussi, sur la place des femmes, vu de l'extérieur, effectivement, on les pense bridées un peu sous le tchador, mais en fait, vous le dites très bien, elles peuvent conduire, elles votent, elles sont chefs d'entreprise, en fait, elles ont totalement leur place.
Justement, j'ai une de mes amies qui est arrivée de France et on était dans une voiture, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme femmes au volant? Mais elles peuvent conduire. J'ai dit oui, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, elles peuvent clairement conduire. Alors la place des femmes, c'est très important. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment une sensibilité pour les reportages sur les femmes que j'essaye de montrer. Là, j'ai suivi pendant quelques jours une équipe de femmes qui voulaient monter une équipe de motocross, alors que faire de la moto pour une femme et même du vélo en Iran est interdit. Et elles ont réussi à obtenir ces autorisations pour créer la première équipe féminine de motocross et donc concourir à des compétitions internationales. Et la semaine d'après, effectivement, il y avait cette interdiction de faire du vélo pour les femmes qui tombaient. Parce qu'il y avait une sorte de vide juridique sur cela. Et bon, là, ça a été acté. Donc, c'est compliqué. Les femmes, elles se battent avec les moyens qu'elles ont. Et je pense qu'elles y arrivent avec l'université, avec une carrière professionnelle. Et ce que m'expliquait justement cet anthropologue urbain très intéressant, c'est que là, elles sont prêtes à se sacrifier, à sacrifier leur rôle de mère et d'épouse pour se créer une place dans la société et construire une carrière. Et quand je vois des chefs d'entreprise, je pense notamment à Nazanin Daneshvar qui est dans mon livre, qui a créé une sorte de site discount en Iran, qui a maintenant plus de 120 personnes à ses ordres, sa société est cotée à plusieurs millions de dollars. C'est assez impressionnant de voir son parcours et elle m'expliquait qu'au début, lorsqu'elle allait présenter sa société, ses interlocuteurs, pour la plupart, lui disaient « Mais où est le patron ?» Et elle disait, mais c'est moi le patron. Mais non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être le patron. Donc au début, elle venait avec son père, en disant, voilà, moi je suis une employée, voici le patron. Et maintenant, non, elle y va et c'est elle la patronne.
Elle s'affirme en tant que femme et patronne. Alors, c'est marrant parce que la semaine prochaine, on va faire une émission autour de l'aventure au féminin et on aura une invitée qui s'appelle Marion Poiseau et qui est allée une dizaine de fois en Iran. Ils sont en train d'introduire le surf sur les plages du sud, au Baloutchistan, et ça a commencé avec des femmes, avec une snowboardeuse iranienne.
Oui, alors ils avaient installé ça dans le, ils ont installé ça dans le cadre du documentaire de cette femme, effectivement. Donc ça a été vraiment monté après pour faire ce documentaire. Je connais une des filles qui est d'ailleurs dans le livre, Mona, qui fait du surf. Et mais les femmes, elles s'expriment donc. Outre l'université et une carrière professionnelle, elle s'exprime énormément dans le sport aussi. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Moi, je connais notamment une jeune fille qui a moins de 30 ans et qui est championne de hockey. Hockey sur glace. Et d'ailleurs, son entraîneur est une femme française. Et voilà, elles essayent de s'accomplir dans le sport parce que c'est comme ça qu'elles peuvent avoir une visibilité, gagner des médailles et dire, vous voyez, nous aussi, on peut faire comme les hommes, on peut gagner des médailles. Et d'ailleurs, lors des derniers Jeux Olympiques de Rio, la première femme iranienne a gagné une médaille de bronze, c'était au taekwondo. Et sur les autoroutes de Téhéran, il y avait sa photographie en disant « Bravo Kimia, Kimia Alizadeh, bravo Kimia ». Même le président Rouhani s'est fendu d'un tweet pour la féliciter. Et même certains députés conservateurs l'ont félicité. Donc, elles arrivent vraiment à obtenir une stature avec le sport.
Alors, on entend bien à quel point un vent nouveau souffle sur l'Iran. Ça faisait un moment que les Iraniens attendaient ce moment, Myriam Pirzadeh.
Le moment, vous parlez de l'accord. Oui, je pense que cet accord, en fait, c'est ça qui m'a vraiment surpris ce soir du 14 juillet 2015. Ils ne savaient vraiment pas ce qu'il y avait dans cet accord. Et ils ont surtout célébré le fait de revenir au sein du Concert des Nations. C'est-à-dire que dans la bouche des Iraniens ce soir-là, c'était « on ne va plus être des parias, ça y est, l'Iran ne va plus être mis au banc des nations, on reprend notre place ». Mais ils ne savaient pas du tout qu'effectivement, il y avait eu des concessions qui avaient été faites sur leur programme nucléaire, que les sanctions n'allaient pas être levées comme ça d'un coup de baguette magique. Et tout le monde s'est imaginé avec cet accord que tout était possible, que les sanctions allaient disparaître et que l'Iran allait devenir un pays ultra-mondialisé, ce qui n'a pas été le cas. Les Iraniens, en fait, souffrent énormément de ça. Et ça, je l'entends beaucoup au quotidien. Voilà, on a tellement une mauvaise presse sur notre pays, on ne mérite pas ça. On ne peut pas être comme ça à chaque fois, dès qu'il se passe quelque chose de négatif. On ne parle de nous que en termes négatifs. Donc là, pour une fois, il y avait un accord. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient heureux. Ils ont voulu montrer qu'il y avait, il pouvait y avoir des éléments positifs aussi dans leur pays.
C'est un vrai pays émergent, du coup. Il arrive, c'est un vrai pays émergent. Tout est à construire.
Alors, tout est à construire.
Les investisseurs étrangers se ruent sur le gâteau, on peut dire ça comme ça.
Alors, ils se frottent les mains, mais je peux vous dire qu'ils sont extrêmement frustrés aussi, car pour le moment, on ne le dit pas assez, mais il y a encore des sanctions. Les sanctions américaines sont encore en place. Les sanctions primaires qui pèsent sur 400 entités du pays, des banques, des compagnies aériennes, et qui bloquent la signature de contrats. Et ce qui bloque aussi, ce sont les États-Unis qui n'ont pas de politique claire. Et ça, d'ailleurs, John Kerry en a parlé il y a quelques jours, et ça a provoqué l'ire des Iraniens en disant qu'il fallait, voilà, que pour la levée complète des sanctions, il fallait que les Iraniens changent un peu leur politique régionale. Donc c'est un peu une manière de désavouer cet accord de la part du secrétaire d'État américain, et ça, ce n'est pas du tout passé à Téhéran. Donc effectivement, il y a tout à construire, et il y a une frustration quand vous parlez de pays émergents. C'est un pays émergent, un vrai pays émergent, avec des lois protectionnistes. C'est-à-dire que les Iraniens, vu qu'ils ont été tournés sur eux-mêmes pendant de nombreuses années, ils ont appris à fabriquer eux-mêmes. Je veux dire, il y a une sorte de Silicon Valley à l'iranienne qui est le centre Pardis. L'Iran compte la troisième plus importante population d'ingénieurs au monde. Chaque année, 200 000 ingénieurs sortent diplômés des universités. Et, ils sont très réputés, notamment aussi pour la neurochirurgie. Donc effectivement, les Iraniens ont appris à fabriquer eux-mêmes, ont mis des lois loi qui les protège, donc la taxe sur le luxe notamment, qui est extrêmement importante et qui empêche pour le moment des groupes de luxe de venir s'implanter en Iran, car avec une taxe de 140%, c'est quand même assez compliqué de faire des affaires en Iran. Donc l'Iran a toutes les caractéristiques d'un pays émergent, effectivement.
Merci beaucoup, hein, Mariam Pirzadeh, d'avoir été avec nous en direct. Vous êtes franco-iranienne. Hein. Vous avez aussi un lien personnel avec ce pays, votre père. Et j'ai vu, on était partis aussi à pied et quitter le pays d'une manière clandestine. Donc, c'est un pays.
C'est un pays, effectivement, que j'aime beaucoup et j'aime y vivre. Et pour le moment, effectivement, chaque jour est encore un voyage dans ce pays. Et je pense que c'est ça le principal.
Ça fait 2 ans maintenant que vous êtes basée à Téhéran pour France 24.
Ça fait 2 ans. Alors, je ne pense pas que je vais y rester toute ma vie. Mais effectivement, ça a été honnêtement l'une des meilleures décisions professionnelles de partir là-bas. Parce qu'effectivement, en partant là-bas, je ne savais pas du tout si j'allais obtenir mes papiers, si j'allais pouvoir travailler. Et finalement, ça a été facile. Et je peux travailler facilement. J'ai une carte de presse d'un an. Et je peux tourner sans montrer mes reportages au préalable. Ce qui n'était pas le cas forcément avant. Et c'est vrai que l'Iran, c'est une partie de moi. Et je pense que je suis partie aussi découvrir cette partie que je n'avais pas développée et que je développe depuis 2 ans.
Merci beaucoup, hein, Mariam Pirzadeh. Donc, Quand l'Iran s'éveille, aux éditions de La Martinière. Et vous repartez déjà demain.
Oui, je repars sous le soleil de Téhéran.
Merci à toute la fine équipe. Merci à vous, les auditeurs. Et demain, c'est la liberté en entreprise. On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71. À demain. Portez-vous bien.